Chapitre 13. Viduité. Et, le soir, Lucien disait à Marcel « Finis-moi ton histoire, ma chérie. J'ai si bien travaillé aujourd'hui, j'ai vraiment fait une bonne chose, je suis content de moi. Tu avais raison, cela valait mieux que de courir à travers champs, dans les ivresses de l'amour, mais aussi dans les langueurs du rien faire. » Et Marcel lui souriait, et Lucien, à son tour, abandonnait sa tête sur les genoux de la jeune femme. Elle posait avec orgueil ses deux mains sur le front de Lucien, puis, s'inclinant vers lui, elle imprimait un long baiser sur ses paupières fatiguées, et un souffle de vie passait en même temps sur le front de l'artiste et sur le cœur de l'amant. « Eh bien, raconte, ma chère Scheherazade. Tu le veux ? Où serais-je mieux pour t'écouter ? » Nous nous disposions à partir pour Paris. Grande était l'incertitude de M. Delamare à l'endroit d'Ursule. Il ne savait s'il devait ou la garder à son service ou l'emmener avec moi. Sa prudence et son souci du lendemain le tiraillaient en sens contraire. En lui révélant le mystère de ma transformation, il craignait quelque indiscrétion de sa part, et, de notre côté, il était épouvanté d'abandonner une fille de 20 ans aux isolements de la vie parisienne. Ursule était sûre et discrète, il se décida donc à l'emmener avec moi. Et elle prouva une fois de plus qu'une femme peut, aussi bien qu'un homme, garder un secret. Mais ce n'était pas une mince affaire pour la pauvre fille que de quitter son village. « Ah, ma chère demoiselle, disait-elle, il faut savoir respecter les volontés des morts. Mais bien sûr que ça n'a point été le bon ange de votre défunte mère qui lui a soufflé l'idée de vous envoyer à Paris. N'étiez-vous pas bien ici? N'aviez-vous point la campagne du bon Dieu pour vous réjouir les yeux et les visites de M. Delamare pour vous réjouir le cœur? Paris, dit-on, c'est la perdition des âmes. » « Eh bien, reprenais-je en souriant, restez ici si vous craignez de perdre votre âme avec moi. »« Rester ici, s'écriait-elle, qu'est-ce donc que vous feriez sans moi? Qu'est-ce qui vous soignerait si vous étiez malade ?» Ces raisons étant fort péremptoires, nous l'emmenâmes. À Paris, M. Delamare m'installa dans un petit appartement composé de 3 pièces exiguës au 5e étage, mais avec une vue magnifique sur des jardins où de hardis pierrots venaient chercher aventure, où des pigeons prenaient leurs ébats, où des arbres frémissants laissaient monter à mes fenêtres des bouffées de leurs vertes senteurs. Puis, au loin, le fronton de l'Arc de l'Étoile, dominant l'inextricable forêt des cheminées, dessinait ses lignes antiques dans les brumes roses du matin et les flots d'ambre des rayons du soir. Je trouvai ma chambre meublée des meubles qui avaient appartenu à ma mère. Chère pénate, que ce bon monsieur Delamare avait emporté sans m'en rien dire. Quand il obligeait avec tant de simplicité qu'on était presque tenté de croire qu'il ne pouvait faire autrement que ce qu'il faisait. Enfin, je revêtis mon costume masculin. Risible fut l'émoi d'Ursule à mon apparition. Moi, je l'avoue, je me regardais dans la glace avec une certaine complaisance et j'éprouvais un instinctif sentiment d'orgueil. Ce bon monsieur Delamare soupirait. « Marcel, me dit-il en me serrant dans ses bras, joignez toujours à la fierté masculine, à la pudeur de la femme, un profond respect de vous-même et, je l'espère, tout ira bien. » Puis il me présenta à l'un de ses amis, chef de division au ministère de l'Intérieur, qui lui promit un prompt avancement pour son protégé, qu'il n'admettait cependant que comme surnuméraire. Ce bon ami me quitta enfin, le cœur gros de larmes et l'esprit bien inquiet sur mon avenir. Après son départ, j'éprouvai une espèce de défaillance morale impossible à décrire. Il me semblait que je perdais une seconde fois ma mère. Pénibles furent-ils les commencements de mon stage masculin. J'avais à vaincre et ma timidité naturelle et mon ignorance de toutes choses et les plaisanteries de mes camarades qui raillaient fort le nouveau débarqué de province. Ils m'adressaient diverses questions scabreuses auxquelles j'étais bien embarrassé pour répondre. Ils faisaient maints jeux de mots que je m'efforçais en vain de comprendre, puis j'avais de perpétuelles craintes qu'une inconséquence de ma part ne fît soupçonner mon secret, et je crus d'abord que je faillirais à la tâche que je m'étais imposée. Mais il est dans le cœur de la femme des ressources inconnues. d'une nature tout à la fois souple et résistante. Quand elle cesse d'être frivole, elle est parfois sublime. Et là, cette frivolité qu'on lui reproche sans cesse n'est le plus souvent que le fruit insipide de l'éducation qu'elle reçoit. Si je n'étais pas au courant des affaires, j'étais du moins fort assidu à mon bureau, ce qui revient à peu près au même pour faire son chemin. Je finis par m'acclimater à cette atmosphère masculine, à savoir passablement mon rôle et à le jouer sans trop de gaucherie. Je parlais peu, je m'isolais autant que possible. On m'appela le rêveur, on crut que j'avais laissé mon cœur à quelque moutonnière clouée de province, et comme il arrive toujours, on cessa de s'occuper de moi. Je menais une vie fort sédentaire et j'occupais mes loisirs à parachever mes études, à entrer, autant qu'il m'était possible, dans le grand courant de la pensée et du progrès qui, en France, ne roule ses ondes qu'à Paris. La pauvre Ursule s'habituait encore plus difficilement que moi à sa nouvelle existence. Elle passait ses journées à cirer, à frotter, à raccommoder le linge, et parlant peu avec la concierge et les autres domestiques de la maison, elle se dédommageait le soir avec moi de son abstinence de tout le jour. Elle ne pouvait comprendre qu'on juchât aussi haut que les oiseaux du ciel, qu'on se condamnât à vivre dans une véritable cage, quand, en province, on avait toute une maison à soi pour un minime loyer. À Paris, disait-elle, on paie tout, on est forcé d'économiser sur tout, et sur l'eau qu'on boit, et sur l'air qu'on respire. Et malgré cela, on ne fait point d'économie. Ah, mon Dieu, quelle étrange idée a eue votre défunte mère! Et puis les gens de ce pays-ci ne pensent point de même que les gens de chez nous. On dirait, en vérité, qu'ils ne descendent point d'Ève et d'Adam comme nous autres. En riant, je la consolai. Au bout de quelques mois, M. Delamarre vint me voir. Mon chef de bureau lui fit l'éloge de mon intelligence, de mon assiduité, et lui annonça mon avancement. Il vint tout joyeux m'apprendre cette bonne nouvelle et me féliciter. Il commençait à absoudre ma mère de ses étranges volontés. Esprit éminemment pratique, calculant tout, ne faisant rien sans un but quelconque, un résultat, si petit qu'il fût, était pour lui un succès. Comme il ne craignait plus autant mes gaucheries, il me présenta chez quelques amis qu'il avait encore à Paris et m'engagea à répondre, de temps en temps, aux invitations qu'il ne manquerait pas de me faire. Pour me conformer à son désir, j'allais donc un peu dans ce qu'on appelle le monde. Hormis quelques hommes d'élite que j'y vis rayonner çà et là, comme des météores, je n'y trouvais que le vide du cœur, les insignifiances de la pensée, les étroitesses de l'esprit, les commérages de la province s'agitant dans un plus vaste milieu. Chacun apportait avec soi le mouvement de ses affaires, les tiraillements de son entourage, les petites misères de sa vie domestique. Si un événement un peu grave agitait les masses, chacun le jugeait selon son intérêt particulier et n'avait pour la chose publique que les prévoyances de son bien-être personnel. Toujours les courtes et égoïstes vues du « pour soi », jamais les vastes appréciations du « pour tous ». J'étudiais les hommes, j'étudiais les femmes, surtout dans leurs rapports réciproques. Hommes et femmes se cherchent, se jugent, se condamnent, sans s'apprendre, sans se comprendre. Ils disent par tradition, plutôt que par conviction, beaucoup de mal les uns des autres. Ils sont presque toujours à côté du vrai dans leurs appréciations. Ils se froissent, faute de s'entendre, parce que ni les uns ni les autres ne mettent assez de bonne foi et surtout assez de cœur dans leurs rapports. Je fus mêlé, bien malgré moi, à des aventures qui ne manquaient ni de piquant ni d'originalité. J'eus quelques succès auprès des femmes, surtout auprès des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire qui sont arrivées à l'âge incertain de la quarantaine. Ma sauvagerie avait sans doute pour elles l'irritante saveur du fruit vert. Mais, généralement, les femmes apprécient peu la timidité chez les hommes. La retenue leur plaît et obtient auprès d'elles un succès d'estime. Le donjuanisme les effraie et pourtant les attire par le charme de l'imprévu et les tentations de l'inconnu. Elles ont peur de se donner et elles éprouvent une certaine irritation d'amour-propre dont le plus souvent elles ne se rendent pas compte contre ceux qui ne cherchent pas à les conquérir. Instinctivement délicate, il y a en elle un besoin d'ascension morale que leur éducation développe peu ou point. Elles sentent vaguement qu'elles ne sont pas à la place qu'elles devraient occuper dans l'échelle sociale et elles ne font rien pour s'en emparer. Et voilà le fade milieu vernissé à la surface qu'on appelle le monde, dont chacun se plaint, tout en lui faisant bien plus de sacrifices qu'à sa conscience, sacrifices dont il ne vous sait aucun gré. On est mécontent de soi, on est mécontent de lui, et on ne cesse de lui faire des platitudes. Hey, tu arranges bien le monde, dit Lucien en souriant. N'est-ce pas vrai tout cela? Mais, reprit Lucien, il ne se trouva point, ça et là, quelques hommes perspicaces qui devinèrent ton sexe. Peu, et encore cela n'eurent-ils jamais que des soupçons. J'étais toujours en garde, et quand je surprenais quelques regards investigateurs, quand, par hasard, on m'adressait des questions insidieuses, je les parais avec adresse, je dépissais les curieux, puis je disparaissais. On perdait ma trace, chose assez facile à Paris, où tout le monde vit à bâton rompu, où les connaissances d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et puis, il est peu de Français qui soient dominés par ce qu'on appelle une idée fixe. Cette pauvre Ursule, prise de la nostalgie du clocher, si forte parfois chez les natures peu développées, s'en fut mourir dans son village. Je dois lui rendre cette justice, elle ne dit qu'à son confesseur, en lui accusant tous les mensonges qu'elle avait faits, le secret de notre existence à Paris. Puis, elle avait tellement pris l'habitude de m'appeler monsieur qu'elle avait fini par ne plus me considérer comme une femme. Peu de temps après, je perdis aussi mon excellent ami, monsieur de Lamarre. Je le pleurais presque autant que ma mère. N'avait-il pas remplacé pour moi le père que par erreur la nature m'avait donné? Profond fut-il l'isolement dans lequel je me trouvais plongé après la mort de cet ami si dévoué. La vieille Ursule me manquait bien aussi. Plus rien qui m'aimât, plus rien qui s'occupât de moi, plus rien que le vide. Oh, quelle horrible chose que de ne savoir où appuyer son cœur! Je fus alors violemment tenté de reprendre mes vêtements de femme pour échapper aux aridités de ma vie déserte, sans péril imminent peut-être, mais où je me sentais mourir de soif, d'inanition. L'habitude de 6 années était là, et je n'osais plus, et je craignais de devenir un objet de répulsion par l'excentricité de ma vie. Et puis, quoi faire? À quoi m'occuper? Quelle aurait été ma position sociale? La femme n'est pas encore classée, il n'y a pas encore de milieu pour elle. Entre les mesquineries du terre-à-terre, la galanterie et le libertinage, si elle cherche un sentier nouveau, elle devient un être à part qui n'a plus de sexe et dont chacun s'éloigne avec le rire sur les lèvres ou un instinctif sentiment de répulsion, la soupçonnant toujours de cacher quelque intime monstruosité. Pour sauvegarder mon cœur, ma pauvre mère l'avait muré. En moi, la jeunesse chantait, en moi, la vie se soulevait exubérante. Mon être voulait aimer par toutes ses fibres, par toutes ses aspirations, par toutes ses douleurs. Comme apaisement, je lui offrais l'étude, et un rire faux, vibrant sur mes nerfs ébranlés, semblait dire « Tu n'as donc que cela à me donner ?» Puis, un soudain engourdissement s'emparait de moi, engourdissement aussi pénible peut-être que les agitations de la fièvre, et, tout inquiète, je mettais la main sur mon cœur pour sentir s'il battait encore, s'il ne perdait point quelques-unes de ses facultés affectives, s'il n'allait point s'immobiliser avant que d'avoir versé à un autre cœur la vie qui bondissait en lui. Peut-être qu'une autre femme n'aurait pas souffert autant que moi de cette solitude, ou bien elle l'aurait fait cesser à tout prix. Mais, outre l'obstacle du costume, se trouvait en moi une barrière morale bien plus infranchissable encore, le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même, une pudeur féminine que la vie que je menais ne m'avait point fait perdre. Quand je rencontrais un homme jeune, intelligent, beau de cette beauté que donne la pensée, près duquel je me sentais rougir et frissonner, j'aurais désiré qu'il me devinât. Jamais je n'aurais osé lui rien dire. Puis, n'étant pas troublé par cette éloquence du regard, des lèvres, de la voix, que l'aiguillon des sens donne à l'homme, j'avais le temps de réfléchir. Je me mettais à étudier celui que je croyais aimer, et je trouvais toujours en lui quelque chose qui ne me complétait plus. Et je pleurais en m'écriant « Il ne viendra donc jamais celui que je dois aimer !» Dieu me prit en pitié et je te connus, mon Lucien. Te souvient-il, c'était en voyage par un jour de ciel bleu, de brise tiède. Nous échangeâmes d'abord quelques paroles insignifiantes, puis la causerie devint plus intelligente, plus intime, et quelque chose en nous se comprit. Je crus d'abord que tu ne serais, toi aussi, qu'une fugitive apparition comme tant d'autres, et je me sentis prise d'une amère tristesse. À l'automne, nous nous revîmes à Paris, et notre liaison continua. Oh, si tu savais comme j'ai souvent souffert en sentant que j'aimais seule! Si tu savais comme la jalousie m'étreignait douloureusement quand je te voyais gaspiller ton amour avec d'autres femmes qui ne t'aimaient pas! Alors, je voulais rompre une liaison sans issue, sans avenir. Une attraction invincible me ramenait toujours vers toi et l'espoir, et les deux peut-être me remontaient au cœur. Je me disais, un temps viendra où il m'aimera, où il me comprendra. N'ai-je pas eu raison d'espérer toujours ? Oh oui, cher ange ! Hélas, reprit Marcel, attristé soudain, je t'ai aimé la première et je sens que je t'aimerai la dernière. Chasse donc de ton esprit ces lugubres pressentiments, mais toutes mes fibres tressaillent près de toi. Tu m'aimes en ce moment parce qu'il est impossible que les mille étincelles qui jaillissent de mon cœur ne brûlent pas aussi le tien. En amour, vois-tu, l'un est le foyer, l'autre le réflecteur, et presque toujours, c'est l'homme qui est le réflecteur. Cela vient-il de cette ligne de démarcation tracée entre les deux sexes par la société bien plus que par la nature? Et lorsque l'égalité entre l'homme et la femme sera reconnue en fait et en droit, l'égalité dans l'amour se fera peut-être. La tête de Marcel s'inclina sur l'épaule de Lucien. Des pleurs coulèrent sur ses joues. Elle lui demandait, avec le battement de ses artères, le frémissement de ses lèvres et les langueurs de ses yeux, elle lui demandait avec toute elle la réponse à ce grand « que sais-je » social qui tourmentera longtemps encore l'humanité.